Écho d'économie.
La rupture du trafic routier entre Goma et le Grand Nord pour déboucher sur l'Ituri oblige ceux qui voyagent à traverser le Rwanda et l'Ouganda pour y arriver. Les conséquences économiques et sécuritaires y rattachées sont nombreuses. Témoignages dans un instant. Dans ce magazine, nous parlerons également des conséquences de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères sur les vécus quotidiens des Congolais. Bienvenue à tous. Au Nord Kivu, certains voyageurs en partance pour le Grand Nord de la province ou l'Ituri n'ont pas d'autre choix que de traverser le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre leur destination. Cette situation est due à la persistance de la rupture du trafic routier entre Goma et le Grand Nord, consécutivement, entre autres, à l'occupation par le M23 d'une partie des territoires de Masisi et de Rutshuru, et d'autre part au coût du billet d'avion qui coûte actuellement cher. Un agent humanitaire qui a expérimenté en début de cette semaine ce voyage entre Goma, Rwanda, Ouganda pour déboucher en Ituri, parle aussi de l'activisme des rebelles ADF entre Beni et Ituri qui force les voyageurs à entreprendre ces longs voyages de plus de 500 km. En plus de ce motif sécuritaire, notre témoin parle aussi du coût de billets d'avion qui est de plus en plus cher. On l'écoute au micro de Denise Lukeso.
Parce qu'actuellement, pour arriver à Bunia, l'unique voie, c'est l'avion. Parce que par route, c'est pratiquement impossible ces derniers temps. Parce que passer par Rutshuru, il y a les M23, des Beni jusqu'à Komanda, il y a les ADF, il y a l'insécurité. Donc, on ne peut pas emprunter la route pour des raisons sécuritaires. Donc, l'unique voie qui reste, c'est la voie aérienne. Alors que la voie aérienne, c'est encore coûteux. Si actuellement les gens passent par des pays, l'Ouganda, le Rwanda, pour retourner au pays, c'est par rapport au coût des billets d'avion. Les billets d'avion actuellement, c'est 241 $. Bunia, Goma, c'est 241 $. Et plus le 15 $ de Gopa, c'est la taxe de la province. Donc, vous avez déjà 256 $. C'est pas tout le monde qui peut trouver cet argent-là. C'est pourquoi nous avons préféré passer par les Rwanda, l'Ouganda pour venir sortir encore au niveau de la RDC. Parce que 256 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Pour un vol d'une heure, vous devez payer 256 $. Donc, c'est ce qui fait que les gens puissent passer maintenant par l'Ouganda, le Rwanda pour arriver au Congo.
Rappelons qu'il y a peu, une société locale de transport routier annonçait une initiative de convoi entre Goma et Beni via le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce projet peine encore à être lancé alors qu'entre Goma et le Grand Nord de la province, le trafic reste toujours coupé. Hausse du prix du carburant et des biens de consommation courante dans les territoires de Manono, province du Tanganyika. L'administrateur du territoire enseigne que le prix du litre d'essence est passé de 4 000 francs congolais il y a une semaine à 15 000 francs congolais. La seule route qui permet d'approvisionner Manono en denrées alimentaires à partir de Lubumbashi. Ainsi, il lance un appel aux autorités pour la réhabilitation de ce pont. Cyprien Kitanga, administrateur du territoire de Manono, est au micro de Paulin Munanga.
Je viens de confirmer l'information sur l'inflation de carburant. Vous savez, comme derrière l'huître, c'est négocié à 4 000. Actuellement, ça se négocie à Manono, au centre, à 15 000. Vous savez, ça a impacté la vie économique de Manono. Il y a un pont qui a été cassé au niveau de Kiolo. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de camion qui passe sur le pont. Et la route est vraiment dans l'état de délabrement au niveau de 25 km vers Manono.
Et actuellement, ce sont des motos qui circulent. Et puis les motos peuvent prendre combien comme marchandise qui va ravitailler Manono, qui est plus grand que le Rwanda, c'est compliqué.
Voilà un peu la situation qui prévaut chez nous ici à Manono. C'est pourquoi nous lançons un SMS au gouvernement national et que provincial de pouvoir venir résoudre la situation tant soit peu pour soulager la population de Manono. Comme vous le savez, c'est la route nationale numéro 33. Et puis Manono est ravitaillé par Lubumbashi en denrées alimentaires. Ce qui est comme aliment de base provient de Lubumbashi du Haut-Katanga.
Encore sur les routes, et cette fois-ci dans la province du Maniema, le pont Loutou à Salamabila a cédé à la suite des pluies abondantes de la nuit du 16 au 17 janvier dernier. Ce pont, d'une importance capitale, se trouve à 2 km de Kayembe, chef-lieu du secteur de Salamabila, sur la route Kindu-Salamabila et à 27 km de Salamabila centre. Maître Saïdi Vumba, activiste de droits de l'homme et notable du milieu qui alerte, appelle à l'intervention d'action urgente du gouvernement provincial afin de limiter les dégâts. Il a été joint au téléphone par Florence Kizalunga.
C'est depuis le 17 janvier 2024, aux premières heures de la journée, que les eaux de la rivière Luhuku ont emporté les ponts de celle-ci. Et vous savez vous-même que cette rivière se trouve à 2 km de Kayembe, chef lié du secteur de Bébé Salamabila, dans les Kabambar au Maniema. La route là vers Salamabila, c'est suite aux pluies abondantes qui se sont battues. Et il faut signaler aussi que cette route est d'importance capitale, étant donné qu'elle relie non seulement les chefs lieux du secteur à la commune rurale de Salamabila, mais aussi c'est une route qui mène vers le sud Kivu. Alors, les conséquences sont à soulever, notamment il y a rupture. Le camion ne passe plus, même les motos qui approvisionnent la cité de Salamabila ne passent plus, même les vélos et même les piétons ont du mal à traverser étant donné que les eaux inondent jusqu'à Mena. Au stade actuel, la population cherche au moins des voies et moyens pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir une solution même provisoire en attendant que le gouvernement provincial puisse prendre des mesures afin de réhabiliter ces ponts.
Écho d'économie revient sur la dépréciation du franc congolais et les conséquences néfastes que cela entraîne sur les vécus quotidiens des Congolais. Cette instabilité du taux de change inquiète de plus en plus la population. À Kinshasa, par exemple, plusieurs personnes affirment être dans l'incapacité de nouer les deux bouts du mois à cause de la hausse excessive des prix de produits sur le marché. Témoignage d'un Congolais de Kinshasa au micro de Greta Lulendo.
Il n'y a pas un taux fixe par la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de demander au gouvernement, aux autorités en place, essayer un peu d'arranger cette situation de hausse des dollars parce que ça fait vraiment déplorable par rapport à nous, les commerçants. C'est vraiment un désavantage par rapport à nous parce que quand le taux n'est pas fixe, vous aurez du mal à bénéficier de votre travail.
Écho d'économie.
L'invité de l'économie ce soir est Tosenge Bin Henri, secrétaire exécutif de la fondation Tosungana Adel Kanamuli Omba. Dans cet entretien avec Florence Kizalunga, il nous parle des activités que la fondation vient de lancer à Kindu au Maniema. Suivez.
Monsieur Tosenge Bin Henri, bonjour.
Bonjour Madame Florence Kizalunga.
Dites-nous, la fondation Tosungana vient au Maniema avec quelle vision?
Nous avons une vision de développement communautaire et de développement individuel. Et notre principe de base, c'est la ristourne. C'est à travers la ristourne que nous allons agir.
Votre ASBL a combien de domaines d'intervention?
Bon, nous avons plusieurs domaines d'intervention. Mais actuellement, nous allons nous baser seulement sur des petits projets d'élevage et d'éducation à la citoyenneté responsable.
Pourquoi c'est basé sur la ristourne? Comment se fera cette ristourne?
La ristourne, par définition, c'est la mise en commun de moyens pour résoudre un certain nombre de problèmes, individuels ou collectifs. Et comment ça va se dérouler? Nous, les membres fondateurs, nous sommes au nombre de 15. Déjà, il y a eu des postulants. Le jour de l'ouverture, il y a eu au moins une vingtaine de postulants. Nous espérons avoir d'ici lundi, le jour où nous allons avoir une effectivité sur le bureau, au moins une quarantaine de membres. Si chacun des membres donne quelque chose, à la fin du mois, nous aurons une petite somme et nous allons commencer nos activités d'élevage.
On sait aussi que c'est comme les coopératives, quelqu'un qui a déjà bénéficié de la ristourne doit aussi payer pour les autres membres. Et lorsque quelqu'un a déjà bénéficié de la ristourne et qu'il est tombé dans la difficulté de ne pas être à mesure de payer pour les autres, dans ces cas-là, qui va prendre cette responsabilité?
Nous avons une certaine approche qui est différente de la coopérative. La coopérative se conçoit comme coopérative. Nous, nous sommes association et à partir de cette association, nous allons avoir des garanties. Quelles sont nos garanties? Chaque fois que quelqu'un donne une cotisation, nous gardons une petite somme pour couvrir les risques. Tandis que la coopérative, nécessairement, doit avoir des autorisations au niveau des banques, puisqu'ils vont prendre l'économie des membres. Nous n'allons pas prendre l'économie des membres. Nous allons prendre les membres, ils vont cotiser pour résoudre un certain nombre de problèmes qu'ils vont définir avec nous.
Comment est-ce que vous allez recenser les gens pour participer?
Quand les gens viendront s'affilier, on va identifier la personne, s'il est dans quel secteur d'activité, et c'est dans ce secteur d'activité que nous allons agir.
Et si vous avez dit que c'est pour promouvoir aussi la vie sociale de la communauté?
Oui, Il y a des problèmes qui se posent dans les quartiers. Il y a des problèmes qui se posent, par exemple, au niveau des marchés. Il y a l'insalubrité. Au lieu que des camions viennent enlever des immondices chaque jour, par définition, une personne produit au moins un décimètre cube de déchets par jour. Et par rapport à ça, on peut créer des incinérateurs au niveau des marchés. Et si chaque vendeur donne 1 000, 2 000 francs chaque jour, pendant un temps, on peut créer un incinérateur qui va faciliter la vie de cette communauté de vendeurs au niveau des marchés.
Et vous pensez qu'avec des petites cotisations que vous vous fixez là, ça va permettre à ce que, parce que si vous avez dit que vous aurez aussi besoin de faire de l'élevage, c'est qu'on imagine que vous pouvez faire aussi des porcheries, c'est seulement avec ces petits moyens?
Oui, madame. Vous voyez, en Allemagne, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Un village de 30 000 habitants avait cotisé 1 euro par mois. Ça faisait 30 000 euros des habitants de ce village. Ils ont résolu le problème d'électricité en créant une centrale photovoltaïque. Et à la fin, ils ont une garantie d'au moins 30 ans sans réparation majeure, sans entretien majeur. Nous allons copier cette façon de faire où chacun se responsabilise et nous allons aller de l'avant.
C'est que c'est quand même des activités à longue durée.
Des activités à longue durée, il y en aura. Des activités à moyenne durée, il y en aura. Des activités à courte durée, il y en aura.
Par exemple?
À courte durée. Si par exemple les gens s'organisent dans le quartier pour creuser des toilettes, c'est à courte durée. Ça prendra pas des mois et des mois. Si se mettent par exemple à 30 qui ont besoin d'améliorer leur installation sanitaire, bon, ils vont définir leur cotisation et à partir de là, ils vont améliorer leurs installations sanitaires.
Mais c'est tout simple. Pourquoi la population, la communauté du Maniema peut faire confiance à votre fondation?
Nous avons un siège. Il y a des personnalités de référence qui ont vécu toujours dans ce siège. Les fondateurs sont nés là-bas et ils ont toujours vécu là-bas. C'est leur famille qui a une certaine renommée à Kindu et dans le Maniema. Je crois que c'est un minimum de confiance qu'ils peuvent nous faire.
Monsieur Tosenge Bin Henri, et je vous remercie.
Merci beaucoup, madame Florence Kouzavina.
Fin des échos d'économie de ce soir. Patrick Kassongo a été à la prise de son, Jean-Claude Ntiala à la mise en onde. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon week-end.